Bonjour à toutes et à tous, et j'apporte les salutations de l'église de Domaine, notre petite assemblée. On a beaucoup de plaisir à partager la communion fraternelle avec vous de temps en temps. L'été, nous n'avons pas de culte pendant le mois d'août, donc souvent vous le voyez parmi vous pendant les cultes d'été. Donc, dans le cadre de cette journée de culte en commun, entre guillemets, parce qu'on est dans nos églises, un passage a été choisi dans l'Écriture, donc je vais lire le passage qui est dans l'Épître aux Romains, chapitre 13. Et en fait, j'expliquerai après le contexte et puis nous plongeons dans ce passage. Donc Romains chapitre 13 et à partir de verset 8. Donc comme vous savez, l'Épître aux Romains est vraiment composé de deux parties. Une première partie, chapitre 1 jusqu'à chapitre 12 ou chapitre 11, qui parle des fondements de notre foi, la foi en Christ qui nous sauve, la foi seule qui nous sauve. Et puis à partir du verset 12, on parle de l'application dans la vie du chrétien. On parle de qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de chrétien, cette foi, ce salut. Et donc nous arrivons donc au chapitre 13, verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. J'organise mes notes, excusez-moi. L'authenticité nous préoccupe parfois. Quand un nouveau tableau, soi-disant de Picasso, est découvert, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est un vrai ? Est-ce que c'est un vrai ? Parce que si c'est un vrai, peut-être ça vaut 20 millions d'euros ou 20 millions de dollars. Si vous avez une montre, une belle montre, pas comme moi, mais si vous avez une belle montre, il faut quand même se poser la question, est-ce que la montre c'est un vrai ? Est-ce que c'est un vrai Rolex par exemple ? Parce que les Rolex, on peut les trouver à 10 dollars sur le marché de Taipei au Taïwan. Donc est-ce que c'est un vrai ? Est-ce que c'est un vrai ? Et les douaniers savent, et une forte amende, je vous préviens, si jamais vous êtes tenté d'acheter un Rolex pour 10 euros quelque part, il y a une très forte amende à la douane. L'authenticité nous préoccupe, et c'est aussi vrai pour le domaine spirituel. Parce que la question par rapport à la foi chrétienne, c'est quelle est la marque d'authenticité du chrétien ? Donc je vais vous parler aujourd'hui, donc, concernant ce passage de Romains 13, de la marque de fabrique du chrétien. Quelle est la marque de fabrique du chrétien en fait ? Comment est-ce qu'on le reconnaît de l'extérieur ? Et vous avez deviné, je pense, parce que le passage est assez clair, c'est l'amour. L'amour est la marque de fabrique du chrétien. J'ai trois points, donc on va les parcourir. Première chose, c'est aimer, c'est l'ADN du disciple de Jésus-Christ. Donc l'ADN, j'arrive pas à dire, c'est un peu compliqué, hein, les mots, Daniel pourrait peut-être nous dire, mais c'est un peu compliqué. Donc l'ADN, mais vous savez ce que c'est cette espèce de plan que Dieu a conçu pour nos gènes. Donc c'est absolument incroyable, mais c'est quelque chose donc, qui enregistre ou qui donne l'information sur tout ce que nous sommes en termes de gêne. Donc, aimer, c'est l'ADN du disciple de Christ. L'ADN donc, contient sous forme codée donc les informations nécessaires à l'organisme. Pour le chrétien, l'ADN du chrétien, c'est aimer. Quelqu'un a dit, je crois que c'est Augustin, a dit, et c'est assez choquant, « Aime et fais ce que tu veux ». Et on se dit, bon, non, c'est pas biblique ça. Mais si on aime vraiment, si on aime vraiment le Seigneur, si on aime vraiment le prochain, on ne fera que ce qui plaît à Dieu. Donc, dans un sens, je suis d'accord avec Augustin, aime et fais ce que tu veux. Rappelez-vous, en réponse à la question, quel est le plus grand des commandements, Jésus a répondu, qu'est-ce qu'il a répondu ? Aimez votre Dieu, aimez votre prochain comme vous-même. Quand vous aimez véritablement, vos désirs sont alignés sur les désirs de Dieu, la volonté de Dieu. Car Dieu est l'objet suprême de votre amour. Vos attitudes, vos actes, en public ou en secret, seront guidés par cet amour que vous avez pour le Seigneur. Deux choses que j'aimerais dire par rapport à cet ADN de l'amour. Première chose, c'est que l'amour a un cadre divin. Donc l'amour n'est pas n'importe quoi. L'amour est guidé, le « fais ce que tu veux », aime et fais ce que tu veux. Quand même, il y a des rails que Dieu a prévus pour aimer. Et nous avons beaucoup de passages dans la Bible qui nous décrivent ce que c'est que l'amour. Et nous pouvons remonter, comme ce passage de Romains 13 le fait, nous pouvons remonter à l'Ancien Testament et à la loi pour voir ce que c'est qu'aimer. Parce que finalement, dans la réponse du Seigneur, quand on lui a demandé quel est le plus grand commandement, il a répondu, première étape de la loi, aime Dieu de tout ton cœur. Deuxième étape de la loi, les commandements 6, 7, 8, 9, 10, aime ton prochain. Donc nous avons les rails, nous avons le cadre de l'amour donné par Dieu dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Donc Jésus ne détruit pas la loi, il interprète la loi, il incarne la loi. Donc l'amour a un cadre divin, mais l'amour a aussi une source divine. Et heureusement, parce que nous n'arrivons pas à aimer, je n'arrive pas à aimer comme il faut. Je n'arrive pas à aimer comme il faut. Il me faut une source divine, il me faut une source divine pour aimer mes frères et sœurs, pour aimer Dieu. Dieu est amour, dit Jean dans sa lettre. Dieu est amour. Et nous voyons suprêmement, n'est-ce pas, l'amour en Jésus-Christ. Que dit Apocalypse 1, dans les tout premiers versets d'Apocalypse 1, Jean va nous dire à celui qui nous enseigne, qui nous a expliqué tout ce qu'il faut et qui a fait de nous des adeptes et des gens religieux, n'est-ce pas ? Versets 5, 6. Non, pas du tout. Pas du tout, à celui qui nous aime, celui qui nous aime, Christ nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Il n'est pas arrêté simplement à enseigner, ce n'était pas un philosophe, c'était Dieu fait homme qui s'est donné pour nous, pour moi, pour mes péchés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, c'est la marque de son amour. La source de cet amour, donc, est une source divine, un cadre divin, une source divine. Et pourquoi, finalement, on peut dire que l'amour est l'ADN du chrétien ? Je pense à Jean 13, puisque Jésus lui-même, dans les dernières instructions qu'il a données à ses disciples, dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Aimez-vous les uns les autres. Combien serait différent la vie de nombreuses églises aujourd'hui si on mettait en pratique cette parole du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Combien de fois Un manque d'amour a conduit à des choses douloureuses parmi les chrétiens dans les églises. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur se répète, hein, pour que nous puissions assimiler ce qu'il dit. Parfois, on trouve dans des récits, même non chrétiens, des illustrations de l'amour qui sont utiles. Et voilà, je voudrais juste citer Les Misérables. Donc, il y a un épisode que vous connaissez peut-être très bien, de Jean Valjean, hein, qui est un homme qui a vécu une vie honteuse, qui a été galérien pendant 10 ans. C'est une histoire, hein, c'est pas vrai. Et puis qui arrive complètement exténué, fatigué, dans les Alpes, chez un prêtre. Il vient de sortir de prison, il n'a rien. Il arrive et le prêtre lui montre beaucoup de gentillesse, l'accueille, lui donne un lit pour la nuit. Et pendant la nuit, cet homme qui est complètement ébloui par l'accueil qu'il reçoit, l'amour chrétien, il est tenté par des choses qu'il a vues dans la maison. Et donc, il décide de voler tous les couverts qui sont en argent. Et puis, il part dans la nuit, et le lendemain matin, il n'est plus là. Et donc, on frappa à la porte. « Entrez, dit l'évêque. » C'est un évêque. La porte s'ouvrit, un groupe étrange, 3 hommes en tenant un 4e au collet. Les 3 hommes étaient des gendarmes, l'autre était Jean Valjean. Monseigneur bienvenu, l'évêque, s'est approché aussi vivement que son grand âge le lui permettait. « Ah, vous voilà !» s'écriait-il en regardant Jean Valjean. « Je suis aise de vous voir !»« Eh bien, mais vous avez oublié les chandeliers, qui sont en argent comme le reste !» Vous pourriez bien avoir 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ? Jean Valjean ouvrit les yeux et regarda le vénérable évêque avec une expression qu'aucune langue humaine ne pourrait rendre. Monseigneur, nous avons arrêté cet homme pour voir, il avait cette argenterie. Et il vous a dit, interrompit l'évêque en souriant, qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il a passé la nuit. Et vous l'avez ramené ici, c'est une méprise. Les gendarmes lâchèrent Jean Valjean qui recula. Et puis l'évêque cherche les chandeliers en argent, les donne donc à Jean Valjean. Et il dit d'une voix basse, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. Et puis il lui dit, Jean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je le retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition et je la donne à Dieu. Je ne suis pas sûr d'être d'accord sur la théologie de la dernière phrase, mais c'est une histoire, mais qui montre l'amour chrétien en action. Donc quelqu'un qui vient, qui montre aucune gratitude et qui fait tout le contraire, qui vous crache au visage, qui part, qui vous vole, après que vous ayez montré de l'accueil, l'amour. Et puis il revient, et encore cet homme, Monseigneur bienvenu, montre l'amour. Je pense que c'est une petite image de l'amour de notre Seigneur. C'est à cela que nous sommes appelés. Aimer, c'est l'ADN du disciple de Christ, mais aimer, c'est aussi... c'est aussi avancer dans ma ressemblance à Christ. C'est avancer dans ma ressemblance à Christ parce que, et nous l'avons entendu ce matin, nous sommes sauvés, mais pas sauvés pour rester figés pendant tout le reste de nos jours sur terre en attendant notre mort de rejoindre le Seigneur ou attendant son retour. Nous ne sommes pas gelés, congelés pendant notre vie. on est sauvé pour quelque chose, pour avancer. Pour avancer, mais de quelle façon? Romains 8 nous dit, verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, donc ceux qui sont sauvés, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Alors vous me dites peut-être, oui, mais ils nous sont semblables à Jésus dans la gloire, et je suis d'accord avec vous. Mais le programme, c'est aussi que nous soyons semblables à Christ dans cette vie. Dans cette vie. Pas parfaitement semblables, je suis d'accord. Mais il y a un mouvement, nous sommes appelés un mouvement vers l'image de Jésus-Christ. Romains 12, donc, qui introduit cette deuxième section de Romains, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Il parle de maintenant. Faire quelque chose pour que nos vies soient un sacrifice pour le Seigneur. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, il y a quelque chose pour nous dans cette vie. En termes d'avancement, on ne peut pas rester statique, on ne peut pas rester figé. Je voudrais parler de deux aspects de cet avancement, de cette transformation, si vous voulez. Avancer dans votre séparation, parce qu'il faut bien le dire, on ne peut pas ignorer le fait que nous avons été sauvés d'une vie de péché, et je sais de quoi je parle pour moi-même, vers une vie sainte avec le Seigneur Jésus. C'est un avancement, hein, c'est un peu bizarre l'idée d'avancement dans une séparation, mais la séparation vis-à-vis du péché, c'est ce que l'apôtre appelle se dépouiller. Et nous trouvons ce mot de se dépouiller dans d'autres lettres de Paul, par exemple les Éphésiens, se dépouiller de l'ancien homme pour revêtir le nouvel homme. Le nouvel homme, c'est Christ. Et puis, il mentionne dans le passage trois aspects, le manger et le boire, la sexualité et nos relations avec les autres. On ne peut pas avancer avec, on ne peut pas avancer en Christ, on ne peut pas avancer vers ce que Dieu veut pour nous, que ce soit en service, que ce soit en général sa volonté pour nous, sans se séparer, se dépouiller des choses qui nous collent à la peau de notre ancienne façon de vivre. Manger et boire. Paul ne prône pas comment dire, une existence monastique, de ne manger que le pain sec et boire de l'eau, mais il parle de l'excès. Il parle d'une place que nous pouvons donner à certaines choses dans nos vies qui deviennent des dieux ou des quasi-dieux. Et ça s'applique pas seulement au manger et au boire, mais visiblement à l'époque, c'était un problème. Quand Paul écrivait ses lettres, il n'écrivait pas, je dirais, à des personnes sans visage, il écrivait à des vraies églises avec des vrais problèmes. Donc on peut bien imaginer qu'il y avait des problèmes de gens qui mangeaient à l'excès, comme c'était l'habitude des Romains, et qui buvaient aussi à l'excès. Aimer et adorer Dieu seul, premier commandement. Hein. Le premier commandement, c'est que tu aimeras et tu adoreras le Seigneur seul. Donc, on ne peut pas laisser que ce soit la nourriture, la boisson, l'alcool, on ne peut pas laisser quelque chose nous dominer et devenir un Dieu. Et ça peut être bien autre chose. Deuxième chose, la sexualité. Notre sexualité est un don de Dieu réservé pour un cadre protégé, un cadre défini par Dieu, un cadre béni, le mariage. Et hors de ce cadre, mariage entre un homme et une femme, je note. Hors de ce cadre, nous sommes hors la bénédiction de Dieu. Nous nous mettons en dehors de la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas? En dehors de ce cadre. Quelle que soit la pratique sexuelle, que ce soit la pornographie, que ce soit l'adultère, que ce soit toute pratique qui soit en dehors de ce cadre béni par Dieu. L'homme a toujours essayé de tordre le commandement de Dieu. Voilà quelque chose d'important qui touche profondément notre être. Et si vous êtes pris dans un péché sexuel aujourd'hui, il y a un chemin de retour, il y a un chemin de repentance. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et il nous pardonnera nos péchés. Troisièmement, les relations avec les autres, donc le manger et le boire, la sexualité et la relation avec les autres, il parle de discord, de jalousie, et c'est un vrai problème, même entre les chrétiens, la jalousie, des problèmes entre frères, mais aussi des problèmes avec les non-chrétiens. L'amour ne s'irrite pas, n'est pas jaloux, dit Paul dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne s'irrite pas, n'est pas jaloux. Que nous puissions prendre ça vraiment à cœur aujourd'hui pour nous. L'amour ne s'irrite pas, n'est pas jaloux. Est-ce que nous voyons le Seigneur Jésus s'irriter? Est-ce que nous le voyons jaloux pendant sa vie terrestre? Donc, avancer avec Christ implique d'abord une séparation, de cette vie de péché, se dépouiller, mais je vais vers quelque chose qui est l'adhésion à Christ. Adhésion à Christ, je n'ai pas trouvé un mot meilleur, ce n'est pas très bon ce mot adhésion, mais revêtez Christ, revêtez-vous de Christ lui-même. Vous avez pris Christ, vous avez revêtu Christ quand vous êtes venu à la foi en Christ. Mais Paul est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer de manière répétitive, quotidienne, pour de nouveau revêtir Christ. On a besoin de revenir à Christ. On a besoin, par exemple, de se prêcher, je crois vraiment, la croix tous les jours. On parlait de la croix ce matin. Même en tant que chrétien, on a besoin de la croix. Quelqu'un l'a dit dans sa prière. Nous avons besoin de nous prêcher la croix, l'évangile, tous les jours, parce que si facilement, on s'en éloigne. Et on commence à penser que notre relation avec Dieu est basée sur nos œuvres. On a besoin de la croix. En tant que chrétien, on a besoin de revenir tous les jours. Donc, revêtez-vous de Christ lui-même, oui, par rapport à la dépendance à Christ crucifié, mais aussi c'est revêtir tout ce qu'il était, tout ce qu'il est dans son humanité. Grace et moi, nous fêtons cette année nos 30 ans de mariage. Et pendant vos fiancés, ceux qui sont plus jeunes, vous ne pouvez pas passer assez de temps ensemble, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est pareil. Après 30 ans, je me dis, j'aimerais connaître mieux ma femme. J'aimerais connaître mieux parce que je ne connais pas complètement. C'est pareil avec le Seigneur. Si vous voulez aimer le Seigneur, il faut passer du temps avec lui. Que dit Paul, Philippiens 3, 10 ? Mon but est de le connaître. Il ne parle pas de Dieu en général, il parle de Jésus-Christ. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et par la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection entre les morts. Jean 15, le Seigneur dit, utilise un autre mot, pas revêtir, mais demeurer. Très voisin. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Demeurez en Christ. Donc, connaître Christ, c'est ça, avoir cette adhésion, cette relation avec Christ qui porte des fruits, Nous avons besoin de la manière de penser de Jésus. Quelle était la manière de penser de Jésus? Philippiens 2, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. » Après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le mot « amour » ne figure pas dans ce passage, mais dans chaque syllabe, il y a l'amour du Christ pour nous. Ayez donc cette manière de penser de Jésus-Christ. Il y a un missionnaire qu'on appelle l'apôtre de l'amour, un Espagnol, je ne sais pas s'il y a des Espagnols là, un Catalan, s'il y a des Catalans. Raymond Lull, donc Lull, il vivait au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, et c'était un homme qui a vécu une vie immorale, jeune. Il était très riche, Et à 28 ans, il a une expérience, il dit que c'est une vision, une vision de la croix de Christ. Et il a eu une authentique conversion à ce moment-là. Donc, rappelez-vous, c'était avant la réforme. Hein, donc, d'église protestante à l'époque. Il s'est repenti, il a confessé Christ comme sauveur. Très vite, il a commencé à étudier les Écritures. Il était expulsé, ou quel est le mot, excommunié de l'Église catholique comme hérétique parce qu'il prêchait aux gens la foi en Christ seul. Et puis, il a eu un fardeau pour le monde musulman. Entre parenthèses, n'oubliez pas de prier pour vos amis musulmans en ce moment parce que depuis quoi, une semaine, on est dans le mois du Ramadan. Et c'est un moment de spiritualité très forte chez les musulmans. Et parfois, il y a une occasion, soit de témoignage, mais prier pour eux. C'est un moment particulier. Et il peut y avoir des ouvertures pendant ce mois. Donc, Raymond Lull avait un fardeau pour le monde musulman. Sa devise était « Celui qui n'aime pas, ne vit pas ». Intéressant, « Celui qui n'aime pas, ne vit pas ». « Celui qui vit par la vie, V-I-E, ne peut pas mourir ». La vie, V-I-E, la vie de Christ. Il est parti à 50 ans. Il a passé 9 ans à étudier la culture musulmane et le Coran. Et il est parti à 50 ans à Tunis, où il a engagé tout de suite un débat avec des érudits musulmans. Un certain nombre ont professé la foi. Il a été emprisonné, condamné à la peine capitale. Sa peine a été annulée et il a été déporté. En partant, il a sauté du bateau sur les quais. Il est resté plusieurs mois à enseigner ces jeunes convertis la foi. Donc c'est un homme d'une certaine audace, mais aussi d'un grand amour. C'est pour ça qu'on l'appelait l'apôtre de l'amour. Puis après, il a prêché l'évangile en Algérie et il a fini par se faire lapider en Algérie pour avoir prêché l'évangile à la place du marché. Et donc il est mort, mais il est mort à 80 ans. Hein. Donc il est parti tard en mission. Il est allé plusieurs fois prêcher Christ aux musulmans, l'apôtre de l'amour. On a vu, aimer, c'est l'ADN du chrétien. Deuxièmement, aimer, c'est avancer dans ma ressemblance à Christ. Mais il y a une troisième composante dans notre passage qui se trouve en plein milieu du passage, versets 11-12. Aimer, c'est anticiper le retour de Christ. Aimer, c'est anticiper le retour de Christ. Et donc, il y a juste un petit verset et demi qui parle de cela, versets 11 et 12 de notre passage, qui parle de ce retour de Christ que nous attendons avec impatience. Et ce sera un retour surprise, car vous savez vous-même, dit Paul, 1 Thessaloniciens 5, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, dit Paul, parce qu'il revient sur son sujet, comment devrons-nous vivre alors ? Alors, revêtons les armes de la lumière. L'image, c'est d'un soldat qui entend le réveil sonner et qui ne reste pas au lit, qui ne descend pas à l'inspection en pyjama, mais qui met son uniforme et qui prend son arme et qui descend pour l'inspection impeccable, prêt à agir. Revêtons les armes de lumière. Nos armes, quelles sont les armes? Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui parlent des armes du chrétien. Je prendrai 1 Thessaloniciens 5, verset 8. « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque et l'espérance du salut. » Donc, encore une fois, la foi et l'amour. La foi et l'amour, ça fait partie de nos armes, l'amour. L'amour, c'est une arme inattendue, souvent. On ne s'attend pas à ce qu'on répond avec amour à certaines choses. Il y a urgence, il y a une certaine urgence, parce que nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. Donc, profitons du temps qu'il nous donne. C'est un temps, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un temps où le royaume de Dieu avance incroyablement. Alors, je suis d'accord, en Europe, pas tellement, mais il y a des pays au monde, des pays inattendus où le royaume de Dieu avance. Je parlerai de l'Iran très brièvement. L'Iran, en 1979, il y avait la révolution. Le Shah a été chassé. C'est une révolution islamique, fondamentaliste. Et depuis ce moment, on s'attendait à ce que la foi chrétienne soit complètement, disparaisse complètement de l'Iran. Figurez-vous, il y a à peu près, je crois que le chiffre est à peu près 180 000 chrétiens dans ce pays. Alors, c'est un pays de 75 millions d'habitants, donc ce n'est pas beaucoup en pourcentage. Mais c'est un pays où la foi avance à une vitesse importante. Il y a une soif pour l'évangile qui est assez incroyable, malgré les persécutions, parce qu'il y a des pasteurs qui se sont fait assassiner ou exécuter pour avoir présidé, par exemple, à des baptêmes d'ex-musulmans. Il y a une croissance de 20% par an de l'Église évangélique. Ça serait bien, hein, 20% par an ici, non? Ça serait bien. Enfin, c'est pas les nombres, c'est pas le nombre qui compte, hein. C'est pas une comptabilité numérique, mais ça montre que Dieu est à l'œuvre d'une manière remarquable dans ce monde. C'est un moment où le Seigneur est en train de ramasser son troupeau. C'est un temps aussi de combat, de lutte, d'opposition, de revers. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont arrêtés pour leur foi. J'étais au Maroc il y a 3 semaines pour le travail. Au Maroc, c'est 98% musulmans. Le roi est descendant direct du prophète, paraît-il. Et on ne peut pas annoncer la foi ouvertement sans se faire arrêter. Mais on peut parler de Christ en privé. Donc mettons-nous à disposition du Seigneur comme le soldat, avec son arme, avec son uniforme, prêt à agir. Comme dit Paul, 1 Corinthiens 15, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Imaginez quand la rumeur est parvenue jusqu'à la capitale que Leclerc et les forces alliées arrivaient à la fin août 1944. Vous pensez que les gens vivaient la journée complètement normalement, hein, comme les années précédentes sous l'occupation? Ou est-ce qu'ils vivaient différemment? C'était pas du tout pareil. C'était une journée inoubliable, je pense, pour ces gens. Ben nous, pareil. On sait que le roi revient. Comment vivons-nous, sachant qu'il est... Alors, est-ce qu'il est au seuil? Est-ce qu'il vient très bientôt ou pas? Je ne sais pas. Mais préparons-nous à son retour. Matthew Henry, qui est un grand commentateur de la Bible, dit, et c'était il y a quelques centaines d'années, mais je trouve que c'est vrai maintenant, il dit « Maintenant, c'est un temps pour l'Évangile, un temps propice, un temps pour travailler. C'est un temps où plus nous est demandé que dans les temps d'ignorance, quand le monde était dans les ténèbres. Il est grand temps de se réveiller, car le soleil s'est levé depuis déjà un moment. C'est un temps pour être occupé des affaires de Dieu. Il y a beaucoup à faire, le Maître nous y appelle. » C'est un temps périlleux. Nous sommes entourés d'ennemis et de pièges. Le temps est compté. Il y a urgence à redoubler de prières. Redoublons de prières. De sérieux aussi dans nos vies chrétiennes, afin d'être trouvés fidèles au retour de Christ. Quelques mots d'application. Donc, aimer, c'est notre ADN. C'est notre ADN. Examinons-nous, est-ce que mon amour est quelque chose qui est en train de grandir pour le Seigneur, hein, d'abord vers le Seigneur, se refroidir? Comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je montre l'amour aux membres de ma famille, aux membres de l'Église, à mes collègues, à mes voisins? Comment est-ce que je le montre? Aimer, c'est avancer. Est-ce que j'avance avec le Seigneur? Aimer, c'est anticiper. Est-ce que je pense de temps en temps au retour de Christ? Est-ce que je pense de temps en temps à ma citoyenneté, ma cité qui est au ciel? Suis-je engagé sur le chemin de la ressemblance à Christ, hein? Parce que c'est le programme de Dieu pour nous. Est-ce que je peux dire avec Paul, mon but est de le connaître? Mon but est de le connaître dans cette vie. Suis-je un chrétien engagé dans la moisson du Seigneur? pourrait peut-être terminer avec les paroles de Paul quand il était plaqué par terre à sa conversion. Qui es-tu, Seigneur? Je veux te connaître plus. Qui es-tu, Seigneur? Je te connais, mais je veux te connaître plus. Qui es-tu, Seigneur? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen.